J'avais quand même une petite question par rapport à l'année dernière. Tu veux bien me l'expliquer, mais très brièvement.
Ça, je connais pas.
Tu avais parlé des quatre activités tantriques.
Ah oui.
Tu vois? Et alors, je pense que je n'ai pas bien, à ce moment-là, bien compris. Parce que moi, j'avais pensé que c'était, vu que c'était Tien Rizik, c'était l'amour, la compassion, la joie. Alors, après, tu avais touché un tout petit mot et je me suis dit, oui, c'est pas ce dont je pensais.
Alors, les quatre activités, c'est pas tant tantrique, mais on en parle à travers les accomplissements par la pratique tantrique. On n'en parle pas dans le Mahayana, c'est ça qu'on veut dire. On en parle plutôt dans le Vajrayana, d'accord? Et ces quatre activités se réfèrent aussi au Dhyani Buddha. Les quatre Dhyani Buddha, et Vairocana étant la famille Bouddha, donc l'éveil, et l'éveil ouvre à quatre activités. Et ce ne sont pas tantriques, c'est les activités trimnées de l'efficience, de Upaya. Ça relève de Upaya, le fruit, hein, pas le Upaya du chemin, Upaya du fruit. Et donc ces quatre activités, compétences, j'aime bien dire aussi, des aptitudes de mettre en œuvre, hein, ce Mahakaruna, cette bienveillance savante, hein, de l'illusion qui produit la souffrance, de la souffrance qui est le produit de l'illusion, ainsi de suite. Tu me demandes de répondre brièvement, mais j'aime bien donner l'ensemble. Donc la première activité, on l'appelle pacification. La deuxième, épanouissement, enrichissement, épanouissement, enfin voilà, élargissement. La troisième, c'est contrôle. Et la quatrième, on traduit par courroux. D'accord? Alors, moi j'y mets ma petite traduction, ma petite sauce, parce que, voilà, c'est comme ça. Alors, pacification, on peut l'associer à. Alors, pardon. Les quatre activités, dans les cinq Dhyani Buddha, c'est donc une fois obtenu l'éveil Bouddha qui est illustré par Vairocana ici, hein, dans ces cinq Dhyani Buddha. Vairocana devient Adi Bouddha, le Bouddha primordial. Et les quatre activités, finalement, c'est l'aboutissement quand on arrive à Amoghasiddhi. Donc Amoghasiddhi est porteur de ces quatre activités. Et il est signifié par le double Vajra, d'accord? Karma Vajra, je crois qu'on dit, d'accord? Donc le Vajra, karma, c'est-à-dire Vajra, l'immuabilité d'activité de l'esprit. On l'a toujours eu, ces quatre activités, ces quatre compétences de l'esprit, hein, savantes de l'illusion et de dukkha. D'accord? Donc on l'attribue à Amoghasiddhi. Mais chacune fait partie d'une compétence de chacun des quatre Dhyani Buddha. Donc ce n'est pas juste Amoghasiddhi, mais Amoghasiddhi, ça converge, il a l'outil en quelque sorte à travers le Karma Vajra. Mais la pacification, c'est de l'ordre de Akshobhya. C'est-à-dire, si tu arrives à avoir l'éveil, eh ben, tu as la sagesse semblable au miroir, l'intelligence semblable au miroir. Tu la connais, hein, qui est associée non pas juste à Akshobhya, mais le couple Akshobhya et Buddha Lokana. Donc un couple d'un élément et d'un agrégat, dénué de toute souillure due à l'ignorance, la soif, la saisie, et toutes les illusions, et ainsi de suite. Donc l'élément Buddha Lokana, c'est l'élémentaire. Et Akshobhya, là, on s'en tient à l'agrégat corporalité. Si on prend Akshobhya tout seul, Akshobhya, c'est l'élément espace et l'agrégat corporalité. Mais sinon, en tant que famille, Bouddha, Akshobhya, on prend l'agrégat qui correspond. Dans toute son intelligence, c'est l'agrégat forme, il y a. Et Bouddha Lokana, c'est l'élémentaire. C'est, donc la Bouddha, Bouddha Kini, mais on sent siéger dans le Tari Nirvana, donc Bouddha. Et après, ça peut être une Dakini. Voilà. Et ça, c'est l'élément terre. L'œil de Bouddha. C'est un œil, une vision de la vie pure. Ça crée, donc les deux, l'élément terre sans la saisie et sans les, toutes les souillures, donc fonctionne dans, est appréhendé comme base d'apparence. C'est l'évidence, la manifestation évidente, le constat, il y a. D'accord ? Et ensuite, l'agrégat, c'est le processus cognitif qui lui correspond, on appelle l'agrégat forme. C'est-à-dire l'agrégat de il y a ou il n'y a pas. D'accord ? L'agrégat manifeste. D'accord ? Donc l'agrégat, c'est un processus mental, bien sûr. Mais le processus mental, le plus primaire, le plus probant, le plus immédiat, d'accord ? D'une convergence, d'une coémergence, d'accord, d'information et de connaissance. Et ça, quand tout est bien, quand il n'y a plus de souillure, et ben c'est la famille Vajra, l'immuabilité, on obtient l'immuabilité d'un continuum d'événements semblables à l'événement d'un miroir, c'est-à-dire l'instantanéité, l'immédiateté, il n'y a pas d'instant deux, il n'y a pas deux instants entre le connu et la connaissance. Entre l'information qui prend forme, ou la forme qui donne information, et la connaissance. Connaissance qui est là, juste un agrégat, un processus cognitif de « il y a, il n'y a pas ». D'accord ? Et c'est cette intelligence, semblable du miroir, d'accord ? Qui fait que c'est la première activité de coémergence, la première intelligence de coémergence, etc. Et on dit le miroir, c'est comme le phénomène optique, d'accord ? Il n'y a pas de temps. Tu approches un objet réel à un miroir, d'accord ? Il n'attend pas que l'objet, le miroir n'attend pas que l'objet réel soit devant le miroir pour décider de faire un reflet, d'accord ? À peine rentré dans le champ optique du miroir, l'objet réel est reflété. D'accord ? Et il n'y a pas de temps. C'est une instantanéité. Et bien, quand on se libère de la saisie dans l'agrégat forme, ben on se libère de la dissociation temporelle. Il y a du connu qui vient à moi, donc je suis le connaissant. D'accord ? Ça crée les trois cercles, ça crée les trois temps. Un référentiel temporel. D'accord ? Avec, donc, à l'intelligence du miroir, on est carrément dans le non-temps. Ou atemporalité. Sahaja signifiant atemporalité. Et si on obtient ça, on obtient aussi la mortalité. Amortalité. D'accord ? C'est ça l'intérêt. C'est que on peut même mourir dans cette connaissance, dans cette intelligence qui est appelée semblable au miroir. C'est tout. Donc, imagine. D'être dans cette, c'est un continuum de coémergence atemporelle. Il y a, tu constates. Alors on dit le yogi ne conceptualise pas, c'est pas ça. N'impute pas. En imputant, ça veut dire que tu fais une distance. D'accord ? Tu te dissocies et donc tu vas prêter une altérité pour te sentir être une subjectivité à part entière. D'accord ? Alors qu'on est une coémergence. Donc on dit le yogi ne conceptualise pas, c'est le chant que je te disais hier de Maitripa, mais le mot conceptualiser, c'est pas ça. C'est imputer, attribuer quelque chose comme étant existant, la forme étant existante. D'accord ? Donc au lieu de voir qu'il y a et tais-toi, tu dis il y a, donc ça existe. D'accord ? Et donc, pour permettre le sentiment de, du « me », le destinataire « me », Atman, Atma, le « me » se sent tant comme un « moi » en soi. Et donc dans le champ de Maitripa, il faudrait dire le yogi qui n'impute pas, qui ne fait pas d'élaboration d'auto-vérification. D'accord ? C'est ça le rappel. D'accord ? La mémorisation de quelque chose pour être quelqu'un. Ce yogi qui n'appuie pas, qui n'élabore pas, est comme un enfant. Alors, la vertu de l'enfant, l'innocence de l'enfant, c'est une image aussi. Attention. Un enfant, il a ses mécanismes aussi de saisie des agrégats et des éléments. Hein. Mais, voilà. Mais un enfant, il peut passer du coq à l'âne. C'est ça, on peut voir. Il est dans une émotion, mais il est triste, machin. Tu lui parles d'avoir un cadeau, il passe à autre chose. Hein. Voilà. Comme un miroir. Tu lui présentes un visage, puis un autre visage, le miroir s'en fout, il passe de l'un à l'autre. Hein. Donc c'est pour ça qu'on joue l'idée de l'enfant, mais il ne faut pas s'infantiliser pour autant. Il ne faut pas faire l'enfant roi, enfin toi, l'idéalisation de l'enfant, retourner à l'enfance, voilà. Enfin moi je mets un bémol là-dedans. Mais ça veut dire une spontanéité, hein, d'accord ? C'est la spontanéité. Tu es dans la spontanéité parce que justement, il n'y a rien de non-né. Pardon, il n'y a rien de né. Donc spontané, ça veut dire qui est dans l'inauguration constante du non-né. D'accord ? On dit des fois le non-engendré. D'accord ? Mais il y a. Tu vois, là, il faut dépasser ce paradoxe. Il y a. Mais ce n'est pas parce qu'il y a que cela existe en soi. D'accord ? Voilà la différence. Et ça, c'est. Donc si tu imagines. Être doté, arriver à doter de cette intelligence, dite semblable au miroir, l'intelligence d'instantanéité, automatiquement tout est pacifié. D'accord ? Même s'il y a lieu d'avoir un moment, un avènement dit colère, d'accord ? Il y a colère. D'accord ? Et donc cette convergence, c'est la reconnaissance, colère vide. D'une altérité pour ayant été pris comme objet de colère et un destinataire, je suis en colère. D'accord ? Ben cette colère va être tout à fait autre chose que cette colère, une colère. D'accord ? Ça, elle ne va pas être justifiée. Voilà. D'accord ? Ça va ? Et cette colère, elle est coémergente à l'amour, enfin à la bienveillance, d'accord ? Etc. Et donc, cette coémergence va rentrer en action. Colère et amour en coémergence. Dans le sens, on est obligé d'utiliser les mots. Il faut oublier d'entendre colère. Il faut entendre un avènement, d'accord ? Qui, en quelque sorte, tu as les deux facettes d'une pièce de monnaie, mais tu vois les deux dans le même temps. Tu vois ? C'est, quand on est dans la coémergence, c'est comme voir la lune et le soleil dans le même temps. Ceux qui sont dans la saisie, ils voient une éclipse du soleil ou dans l'autre côté, une éclipse de lune, si tu veux. Ben toi, tu es dans la communion, la coémergence des deux. D'accord ? Ce qu'on appelle la vacuité noire. Tu es au centre, tu n'es pas dans une obscurité de l'un ou de l'autre, ou une entrave de l'un et de l'autre. D'accord ? Tu es en union, en unité, voilà, de ce moment-là. Et donc, ça permet de voir colère vide de réalité propre, d'accord ? Donc, en sa coémergence, colère, bienveillance, orgueil, équanimité, hein, etc. Toutes ces coémergences qui étaient énoncées par Sakyamuni lui-même. Même si le tantra était très tardif, le tantra, c'est une science contemplative, avec des humanoïdes, d'accord ? Mais les attitudes d'esprit ont toujours existé, d'accord ? C'est plus difficile pour certains de générer une intelligence, hein, et de s'y recueillir et l'activer. D'accord ? Ça, c'est plus Mahamudra, yoga. Et des fois, ben, on cède de sentiments vis-à-vis d'un être de forme anthropomorphique. Voilà. Ça va ? Je suis long, hein ?
Non, c'est bien.
D'accord ? Bien comprendre.
Oui, oui.
Pour s'en apercevoir, parce que c'est le fonctionnement. Ça se trouve, tout le monde a croisé un moment d'intelligence semblable au miroir. D'accord ? Mais on ne se rend pas compte qu'il faut y demeurer, bien sûr. Le problème, c'est pouvoir s'y installer, d'accord ? Poser des bagages, la soif, la saisie, la peur, machin, c'est tout. Mais on entrecroise constamment ces fonctions, mais on n'a pas le temps de s'y arrêter. D'accord ? Donc imagine que tout est paisible, c'est-à-dire que rien, on ne laisse même pas le temps d'imputer des intentions aux formes. D'accord ? Même si ce n'est pas toujours des intentions négatives, même, hein, mais prêter une attention à la forme, hein, c'est lui donner l'idée que la forme serait agréable ou désagréable. Mais ce n'est pas la forme agréable ou désagréable. D'accord ? Tu essaies de trouver ça, tu restes enfin, dans la stupidité. Si tu cherches à savoir si la vie est belle, la vie est moche, tu crées un objet, tu lui attribues des intentionnalités derrière ça. C'est le péché originel. Hein, Adam et Ève ne savent pas ce que c'est que de jouir, d'accord, la coémergence de chaque chose. Et ben, ils vont aller voir une pomme, ils vont décréter, ben, c'est à la pomme de me décider si je dois jouir de quelque chose de bon. Si elle m'affirme qu'elle est bonne, je vais jouir. Donc, il va goûter, et il attend que la pomme s'affirme bonne ou mauvaise. Et ça, c'est l'attachement. D'accord ? C'est pas jouir. Simplement. Avec la sagesse, sans l'ordre de bras, tu es dans l'instantanéité. D'accord ? Mais tu manques pas d'intelligence. Tu manques pas de discernement. D'accord ? Et tu uses d'un instant, voilà. Et c'est paisible, c'est pas procédurier, ce que ça veut dire, pacification. Donc déjà, on est le premier bénéficiaire de cette activité qu'on appelle pacifier. D'accord ? Mais c'est pas paix dans le sens être tranquille. Hein ? Chercher la tranquillité, etc. Ne chercher à ne plus penser ou à ne plus concevoir, enfin voilà, ne plus avoir d'expérience, ne plus élaborer une pomme et goûter une pomme, tu vois. Hein, il y a des erreurs d'appréciation là, d'accord, du fanatisme pratiquement, hein, du radical. Hein. Donc pacifier, c'est cela, d'accord. Donc après, du point de vue de l'éveil, Samyak Sambuddhaya, hein, parfaitement éveillé. Hein, il dispose de upaya à plein pot, quoi. D'accord ? Et donc, cette intelligence semblable au miroir peut servir aux autres. Mais je rappelle souvent, il n'y a pas le syndrome de l'infaillibilité d'un être éveillé. D'accord ? Et l'erreur qu'il peut faire est lui-même, d'accord, remis dans l'activité de cette intelligence. D'accord ? Un Bouddha, il peut estimer, et puis peut-être mal estimer, et puis hop, il redresse le truc. Voilà, sans problème. Il faut se méfier de penser à Superman, l'infaillibilité. Beaucoup de gens, ils vont voir ce qu'ils appellent des grands maîtres. Ils attendent, ils posent des trucs, des problèmes, ils s'attendent à avoir une réponse infaillible, quoi. Alors, peut-être que la confiance fait que ça marche, hein, mais c'est la méthode Coué. Enfin, attention, quoi. Et puis, des fois, ça marche pas. Et moi, j'ai vu des personnes qui mettaient en doute les compétences, mais c'est pas Rinpoché, ça n'a pas marché, j'ai fait ce qu'il m'a dit, c'est stupide. Donc, attention, comment on peut dire, c'est pas le syndrome, mais l'attente d'infaillibilité. C'est pas la réussite d'infaillibilité. C'est pas dans le projet. D'accord ? C'est trop inquiétant, quoi. Comme projet. Une sorte de perfection et d'infaillibilité. La seule infaillibilité qu'on peut avoir, c'est d'avoir toujours un recours à la raison, au discernement et à son honnêteté. Voilà. Et ça, pour moi, c'est le seul projet perfection, si j'ose dire, hein, qui sont dignes des valeurs sûres, l'honnêteté de reconnaître, tu peux te tromper, voilà, que voilà, on est tous, voilà, personne n'est irréprochable, voilà. Tu vois, papa, cette activité pour l'autre de pacification, hein, si quelqu'un vient avec, en haussant le ton, en t'insultant, en montrant le poing, d'accord, il y a. T'en restes à il y a. Mais t'es pas bête non plus. Il y a des apparences d'agression, d'accord, paroles agressives, d'accord. Si on te traite de petit con, etc., tu discernes bien, quelqu'un te dit que t'es un petit con. Donc c'est désobligeant. Sauf si t'as pas de respect de toi-même, d'accord. Et si t'as un respect de l'autre, tu vois, si t'en restes à il y a, ben, le respect de l'autre, c'est se poser la question, mais pour en venir à me dire que je suis un con, tu vas utiliser ton empathie, mais il souffre pour en venir à ça. Parce que moi-même, quand j'en suis arrivé à traiter quelqu'un de con, c'est que j'ai un problème. Je suis blessé, problème fondé ou pas fondé. Hein. Mais l'empathie, on s'en fout de ça. Si c'est fondé ou pas fondé, tu t'interroges. D'accord ? Eh bien, juste ça, il y a, d'accord ? Quelqu'un qui est en train de me dire je suis con, il y a que je suis blessé, d'accord, parce que si tu ne l'es pas, c'est un peu suspect, enfin, je veux dire, tu n'as peut-être pas de respect suffisamment de toi, et surtout, si tu te la prends genre condescendant, ça ne me touche pas parce que machin, tu ne respectes même pas la blessure de l'autre, d'accord. Donc, tu vois, la pacification, cet état de, et cette intelligence en amour, miroir, c'est pas je suis transparent, comme, tu vois, comme on dit souvent, ça me passe au-dessus, non mais de toute façon, ou alors j'ai de la compassion pour cet ennemi. Et si tu le prends pour un ennemi, t'es pas dans la sagesse du miroir, tu vois, t'es dans la discrimination. Tu estimes que c'est un ennemi, et ensuite tu vas instrumentaliser un sentiment de compassion, mais qui sera de la condescendance. Là, c'est karmiquement parlant, c'est toi qui est encore plus bas, plus négatif, parce que tu as un mépris de l'autre, un mépris de la situation, et tu te fais un déni de toi-même, de ta dignité, quoi. Quelqu'un est en train de te dire que tu es con. D'accord ? Et la pacification, c'est cela aussi. Voilà, coémergence. Hein, il y a une phrase, tu es con, coémergent peut-être avec une intention d'amour. Parce qu'il faut voir aussi la coémergence de colère, bienveillance dans le même temps. C'est-à-dire quelqu'un est en train de se mettre en colère, d'accord, te montrant qu'il te fait le reproche que tu n'es pas aimant ou aimable à ses yeux. La colère, c'est ça, il y a un reproche, tu me mets dans l'impuissance de t'aimer. Alors bien sûr, c'est un mécanisme de coémergence dans le subconscient, d'accord. Mais quand on saisit, on prend l'aspect le plus explicite, hein, et prenant l'aspect le plus évident, explicite, ben l'implicite, le subconscient, ne vient pas. On ne reconnaît pas la convergence colère et bienveillance. Mais ce n'est pas de la bienveillance dans le sens « je veux faire ton bien en étant en colère, attention. » D'accord ? Mais la colère, c'est un cri d'amour, c'est un cri de cœur de quelqu'un qui s'estime blessé. D'accord ? Et le fondement, c'est qu'il se sent plus conforme à sa nature bodhicitta. D'accord ? Et si on regarde bien nos propres colères, c'est teinté d'amour. On fait un reproche à quelqu'un, c'est-à-dire qu'on l'aime, en quelque sorte. Hein? Mais on lui reproche que c'est à cause de lui que je ne l'aime pas, par contre. D'accord ? Et donc, là-dedans, si tu obtiens cette sagesse semblable au miroir, je préfère dire une intelligence, dire un rapport discernant, un tel et guéré, voilà, tu arrives à voir, il y a. Tu ne fais pas un déni, tu assumes, d'accord ? Et tu vas lui dire, tu ne vas pas faire des amalgames, des saisies, d'amalgames réducteurs. Hein. Il me dit je suis con, donc c'est il m'agresse. Non, tu es blessé, tu n'as pas besoin de te dire que tu es agressé. C'est désobligeant, et je veux en savoir plus, d'accord ? Et tu peux lui dire... Écoute, ta phrase me blesse. D'accord ? Ça, c'est déjà de l'intelligence. D'accord ? Donc, tu es en rapport de pacification, déjà. dire, j'admets hein, que j'ai fait quelque chose de con. D'accord ? Mais si tu te prends pour agressé, d'accord ? Il me dit que je suis con, tu confirmes, d'accord ? Et bien tu vas dire, bah, toi aussi t'es con. Puis après on a un combat de coq, d'accord ? L'amour propre, machin, etc. Et ça n'a rien à voir avec la dignité. La dignité respective, respecte chacun. Une pacification, hein, c'est ce regard, cette intelligence appelée semblable au miroir, qui rend possible cette activité, trinlé, karma. Alors en sanskrit, il y a un seul mot pour dire karma. Les Tibétains, ils ont dit lé pour le karma souillé d'illusions, machin, etc. C'était contaminé. Le karma, il n'est pas contaminé, c'est comme un processeur d'informatique, c'est une activité mentale, d'accord, cohérente et conséquentielle. D'accord. Mais après, il peut y avoir des grains de sable qui fait que ton karma est un peu buggé. Et ben, on l'appelle karma souillé. Et karma non souillé, c'est un karma, c'est une activité mentale, d'accord, sans les souillures de l'illusion, l'ignorance, la soif, la saisie et tout le reste des kleshas, le manque de stupidité, le manque de discernement, la stupidité, hein, les attachements, les amours propres, ça fait toute une gamme de souillures, voilà, qui fait qu'on est inintelligent au bonheur de soi-même et au bonheur de l'autre, à la limite. Donc cette activité de pacification, d'accord, elle est utile à nous-mêmes, d'accord, mais de façon spontanée, d'accord, on arrive au fait que notre conscience est bonne, elle est dans sa justesse, d'accord, si on ne saisit pas justement l'agrégat forme et l'élémentaire. L'élémentaire, c'est l'aspect probant d'un phénomène. Tu prends note d'un avènement, c'est l'élémentaire, d'accord. Donc tu peux arriver à pacifier quelqu'un, si ça peut se faire même dans des conflits sociaux. Hein? Pourquoi il y a des conflits sociaux là qui durent et durent? Parce que les gens ne se sentent pas écoutés, ils sont méprisés, ils se sentent méprisés, je ne sais pas si c'est le cas. Grosso modo, c'est quand même méprisant. Hein? D'accord? Le traitement qu'on fait à certains manifestants, c'est du mépris et c'est violent. Après, chacun se sent justifié, bien sûr, tout le monde est sincère, quoi. C'est le problème. Hein. Mais c'est comme une cour d'école, quoi. Tu as commencé, c'est parce qu'on m'attaque qu'on attaque, non ? Et voilà, donc il n'y a pas de pacification possible. Il va falloir un truc, se mettre à table, bon, on arrête de dire qui a commencé, etc., etc., et écouter, quoi. Et on a l'impression que personne n'est entendu, quoi. Et ça, c'est la base de la communication et la base de frustration, et la frustration va être la base de l'agressivité. C'est-à-dire justifier une agressivité. D'accord ? Donc, pacification, c'est une intelligence, due à une intelligence, où tu vas rentrer une activité psychique, hein, c'est-à-dire un karma, d'accord ? Et c'est-à-dire, tu vas enclencher un processus naturel de l'esprit qui va s'appuyer sur le discernement, etc. D'accord ? Le respect de chacun, ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais on ne pacifie pas avec la condescendance. T'imagines, quelqu'un vient vient en serrant le poing et dit t'es un con, etc., tu le charges, quoi. D'accord ? Tu commences à lui dire oh, paix, mon ami, je vois que t'es en colère. Tu dis à un colérique qu'il est en colère. D'accord ? Tu redoubles sa colère. C'est pas ce qu'il veut entendre. D'accord ? Hein ? Et en plus, tu lui rajoutes attention, la colère va t'amener à l'enfer. tu essaies de manipuler, d'accord? C'est de la magouille, hein, attention. Hein. Et puis tu peux lui dire aussi, attention, on va faire de la communication non violente. C'est pas le moment. Communication non violente, c'est quoi? C'est avoir de l'emprise sur quelqu'un. C'est de la rhétorique pour arriver à amener l'autre à ses fins. D'accord? C'est des magouilles. C'est pas l'intelligence semblable au miroir et ça n'a rien à voir avec cette activité de pacification. Pacification, tu te mets, t'es humble. D'accord? T'es humble, mais digne, attention. Tu me parles autrement aussi. Tu vois, tu lui dis, attends, tu gardes tes espaces, et ainsi de suite. D'accord? Et puis, s'il faut, tu réagis à un coup de poing. Alors, c'est les moines qui ont inventé l'art martial. C'est-à-dire, montrer que l'autre, attention, tu es plus fort que toi, mais tu te fais mal toi-même, là, tu vois. Tu renvoies l'énergie de l'autre. Hein. Dans l'aïkido, c'est ça. Tu as un partenaire dans l'aïkido. Tu n'as pas un adversaire. Hein. Par exemple, hein. Je ne connais pas les autres arts martiaux. Mais... Voilà, le mec il te tombe dessus, tu le jettes, hop, tu te recules, tu le prends comme ça, il tombe. Tu dis attention, ta colère revient à toi-même. Va te revenir dans la face, quoi. Déjà, se sentir être en colère, c'est déjà. Hein, c'est pénible de se voir en colère. Hein. D'accord, il y a toujours une charge de culpabilité, de gêne. Hein. Voilà pour la pacification.